Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI, il est 10h temps universel, 11h ici à Paris, 19h à Tokyo. Bonjour.
Charlotte Idrac.
Il reste en poste au Japon, le Premier ministre Shigeru Ishiba, confirmé à la tête du gouvernement après un vote au Parlement, mais dans une situation inconfortable sans majorité absolue. L'instabilité politique en Haïti, ça continue. Le Premier ministre Gary Conny, limogé, est remplacé par l'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé. Décision du Conseil présidentiel de transition. Le coup d'envoi de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. La conférence sur le climat de l'ONU avec de grands absents et un bras de fer en vue sur le financement des aides aux pays en développement. La marge de manœuvre est très étroite pour le Premier ministre au Japon, Shigeru Ishiba, réélu donc par le Parlement à la tête du gouvernement, officiellement confirmé à son poste, mais sans majorité absolue. Et avec son parti libéral-démocrate fragilisé 2 semaines après les législatives anticipées, pour gouverner, pour faire avancer ses réformes, Shigeru Ishiba va donc devoir faire alliance avec le petit parti démocratique du peuple, Frédéric Charles.
Le Premier ministre Shigeru Ishiba se trouve dans une situation aussi précaire que celle du chancelier Olaf Scholz en Allemagne. Le Parti démocratique du peuple, qui se dit prêt à coopérer au coup par coup avec le parti du Premier ministre, n'a pas voté pour lui. Les incompatibilités entre les deux partis sont grandes. Le Parti démocratique du peuple exige une baisse de la TVA pour redonner du pouvoir d'achat aux Japonais. Le Parti conservateur veut augmenter les impôts pour contenir une dette publique calamiteuse. À tout moment, le petit parti de centre-droit peut voter une motion de censure et forcer Shigeru Ishiba à la démission. Le Premier ministre a beaucoup d'ennemis au sein de son parti. Il ne lui pardonne pas d'avoir pris le risque d'élections anticipées. Shigeru Ishiba avait sous-estimé la colère des Japonais à l'encontre d'un parti fragilisé par un scandale de caisse noire et ses liens avec l'Église de l'Unification ou Secte Moon. Affaibli, Shigeru Ishiba aura de la peine à faire voter la moindre réforme ou à résister aux exigences de l'allié protecteur américain avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Frédéric Charles, Tokyo. RFI.
Tapis vert à la COP29, la conférence sur le climat de l'ONU qui a ouvert ses portes à Bakou en Azerbaïdjan. C'est parti donc pour 2 semaines de négociations pour mieux lutter contre le réchauffement de la planète et ses conséquences. Le principal enjeu, le bras de fer annoncé, c'est sur l'aide financière à destination des pays les plus pauvres et les plus vulnérables au changement climatique. C'est un sujet primordial pour l'Afrique, Jeanne Richard.
L'Afrique demande 1300 milliards de dollars d'aide chaque année jusqu'en 2030. L'argent doit permettre aux pays pauvres d'opérer leur transition vers les énergies renouvelables. Il doit aussi les aider à s'adapter pour mieux résister au changement climatique et à réparer les dégâts après une inondation, une sécheresse ou un cyclone. Pour les pays africains, il est important que cet argent soit principalement versé sous forme de dons et pas de prêts qu'il faudra rembourser avec des intérêts, alors que beaucoup d'entre eux croulent déjà sous les dettes. En 2009, les pays développés avaient promis une aide de 100 milliards de dollars chaque année entre 2020 et 2025, promesse qui n'a pas été tenue dans les temps, ce qui a beaucoup crispé les relations Nord-Sud. Les pays en développement attendent donc beaucoup de ces nouvelles négociations, car les pays du Nord sont les responsables historiques du changement climatique, avec leurs émissions de gaz à effet de serre et leur industrialisation, et que ce sont les pays du Sud qui en paient aujourd'hui le prix fort. Pour les pays en développement, en particulier en Afrique, les pays riches doivent donc rembourser leurs dettes climatiques. Une manière aussi de rétablir la confiance dans le multilatéralisme.
Le financement climatique n'est pas une œuvre de charité et est dans l'intérêt de tous. C'est ce que disait tout à l'heure à l'ouverture le patron de l'ONU Climat. Pour aller plus loin, c'est Nina Fo, le porte-parole du groupe des négociateurs africains, était notre invité Afrique ce matin. C'est à retrouver sur RFI.fr. J'ajoute que les chefs d'État et de gouvernement seront réunis en sommet demain. Ils seront environ une centaine. C'est moins que lors des précédentes COP. Parmi les grands absents, Joe Biden, Xi Jinping, Lula ou encore Emmanuel Macron. Alerte générale en Ukraine ce matin. Attention, danger de missiles, a averti l'armée de l'air ukrainienne. Et cela après le décollage de bombardiers russes, alors que des frappes aériennes ont fait au moins 6 morts la nuit dernière dans le sud du pays, selon les autorités locales. De son côté, le Kremlin nie tout appel téléphonique entre le président américain élu Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Information avancée notamment par le journal Le Washington Post hier qui évoquait des discussions sur l'Ukraine. À Moscou, le porte-parole du Kremlin parle de pure invention. Donald Trump, qui a procédé à ses premières nominations aux États-Unis, le président élu a désigné la députée républicaine Elise Stefanik pour le poste d'ambassadrice à l'ONU. Et puis pour l'agence responsable du contrôle des frontières et de l'immigration, Donald Trump a choisi un tenant de la ligne dure, Tom Homan, qu'il surnomme le tsar des frontières. Tom Homan était déjà à ce poste lors du premier mandat de Donald Trump. Ce sera donc un retour. Il sera chargé, dit le prochain président, de toutes les expulsions d'étrangers illégaux vers leur pays d'origine. Donald Trump, qui veut se passer de l'approbation du Sénat pour ses nominations, il demande aux sénateurs, en majorité républicains, de ne pas passer par ce processus de vote. La victoire de Donald Trump, la défaite de Kamala Harris et les leçons à tirer pour le camp démocrate, dont la campagne a été plombée, entre autres, par la guerre à Gaza. Dans le Michigan, l'un des États clés, de nombreux électeurs américains musulmans ont soutenu le candidat républicain malgré des réticences. Farah Khan est la coprésidente du mouvement Abandon Harris à Détroit.
Il a rencontré de nombreux musulmans. Il est venu ici plusieurs fois et nombre d'entre eux l'ont soutenu publiquement, dont le maire de Hamtramck. Parce qu'il leur a dit qu'il allait mettre fin à toutes les guerres et qu'il allait imposer la paix. Voilà pourquoi les musulmans le soutiennent. Moi, je ne suis pas encore convaincu en raison de ce qui s'est passé quand il était président et qu'il a imposé son Muslim ban. À cette époque, l'islamophobie avait atteint son pic. Les musulmans étaient attaqués partout. Beaucoup de mes amis étaient agressés à cause de leur voile. Les républicains devront faire un gros travail pour gagner la confiance des musulmans. Car ce qui les a poussés à voter ainsi, c'est probablement parce qu'ils voulaient tellement punir Harris et être sûrs qu'elle perde qu'ils ont donné leur voix à Trump. Des promesses ont été faites pour obtenir ces votes. S'ils veulent garder ce soutien, les républicains devront faire ce qu'ils ont promis. Stopper la guerre.
Farah Khan, propos recueillis par Abla Junaidi. Stopper la guerre au Proche-Orient, pas d'actualité pour le moment. Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué une attaque de missiles contre Israël, précisément contre une base militaire près de Jaffa. Par ailleurs, les pompiers luttaient là ces dernières heures contre des incendies à l'ouest de Jérusalem, des feux provoqués selon l'armée par l'interception d'un missile tiré depuis le Yémen. Israël qui a reconnu pour la première fois hier avoir donné son feu vert à l'attaque au Beeper et au Tokiwoki contre le Hezbollah au mois de septembre. Et bien ce lundi, la justice de Taïwan affirme que Taipei n'est pas impliquée dans l'explosion de ses engins électroniques au Liban. Une nouvelle étape de la crise politique chronique en Haïti. Le Premier ministre Gary Conille, limogé par le Conseil présidentiel de transition. Selon un document qui a largement circulé, il n'était en place que depuis 5 mois. Et c'est l'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé qui va le remplacer. À Port-au-Prince, Peterson Luxama.
La seconde expérience du docteur Gary Conille à la tête de la primature se termine brusquement. Par un arrêté imprimé, pas encore publié officiellement, mais qui a déjà fuité, le CPT a mis un terme au mandat du Premier ministre. Un différend avec le Conseil présidentiel de transition au sujet d'un remaniement ministériel aurait précipité sa destitution. Le CPT voulait que les ministères régaliens, dont le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, ne soient plus sous le contrôle du gouvernement. Mais Gary Conille n'a pas voulu céder. Un dossier devenu explosif au sein du pouvoir de transition. Finalement, c'est le CPT qui a eu gain de cause. À Alix Didier Fils-Aimé, homme d'affaires de renom, ancien candidat au Sénat, a été choisi pour succéder à Gary Conille à la primature. Gary Conille n'a pas tardé à réagir. Dans une lettre émanant de la primature, avec la signature du Premier ministre déchu, mais sans le sceau de l'institution, il dénonce une décision anticonstitutionnelle et illégitime, arguant que le CPT n'a pas l'autorité de destituer un chef de gouvernement en dehors du cadre légal. Pour lui, cette décision va à l'encontre des fondements démocratiques et ne respecte ni la Constitution ni les accords encadrant la période de transition. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et puis les commémorations du 11 novembre qui marquent l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cérémonie en France, présidée par Emmanuel Macron, sous l'Arc de Triomphe aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer cette année. Tout de suite, 8 milliards de voisins. Emmanuel Bastide, à tout à l'heure.